Prêt, mon lieutenant ?
Seconde !
Souvenez-vous, cela fait 2 mois que nous vous bassinons avec le problème d'accaparement de l'eau. Vous pourrez retrouver les podcasts des 2 premières émissions pour en savoir plus sur la privatisation de ce bien commun et de sa mise sur le marché. Nous continuons nos échanges sur les méga-bassines, toujours dans l'idée de comprendre pourquoi tout ça pour ça.
On est prêt ? Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque !
Alors justement, quand tu évoques les oppositions, on peut parler de ce que font ces anti-bassines pour empêcher le démarrage de ces chantiers.
Ils prennent les pelles, puis ils vont reboucher les trous.
Alors, il y a des actions tout azimut.
J'ai des cailloux dedans.
Des actions tout azimut de mener... des conférences de presse pour sensibiliser l'opinion publique.
Et ben justement,
une chaîne de télé sur YouTube.
Moi, je voulais
qui s'appelle BNM-TV. Quoi.
Je voulais en parler, c'est que j'ai l'impression qu'on confronte. D'un côté, on va avoir un État qui veut des méga-bassines. Je ne sais pas pourquoi, mais il en veut. Et de l'autre, il y a les opposants. Mais entre les deux, toute la population qui ignore totalement. Quel est leur point de vue par rapport à ça ? Comment elle est informée ? Est-ce qu'elle est consultée ? Qu'est-ce qu'on lui explique à cette population ?
À moins de rechercher une information détaillée et puis de parvenir à la vérifier en multipliant les sources, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose.
Pas simplement des espèces d'uluberlus qui envahissent des champs et puis qui se font gazer par les policiers. Et encore, il y en a même qui sont... encore à l'hôpital à ce jour. C'est tout ce qu'on entend dire dans les médias. Hein.
D'une manière générale, personne n'a exposé clairement le fonctionnement d'une méga-bassine aux personnes qui ne cherchent pas l'information.
Mais la question va se poser de toute façon cet été, malgré que la pluviométrie du mois de mars a été pas mal, ça a évité la sécheresse de surface, mais il n'empêche qu'on est encore dans la logique. En profondeur, il manque 40 à 60% à 80% dans le sud d'eau en profondeur. Donc le bilan, ils le disent, le BRGM dit qu'il y aura à peu près 60 villes en France qui seront en stress hydrique cet été. Donc stress hydrique, même dans les campagnes. Je vois dans les Ardennes, dans le sud Ardennes, à l'automne, ils n'ont pas pu remplir la piscine de Vouziers. D'accord ? Et les gens... Justement, les gens, ils disent, ben non, nous on veut... Le maire a bien expliqué en disant, bon, la priorité c'est l'eau d'alimentation, l'eau pour faire à manger, l'eau pour se laver.
Hein.
Mais les gens, non, ils voulaient de l'eau dans la piscine. Donc, le problème du 70% de financement d'argent public, là, ça va être sous la table. Parce que ces méga-bassines, il faut que ça ressorte pour que ça touche ces gens-là avec un discours très clair en disant, c'est votre argent. Mais à ces gens-là, quand tu vas leur dire qu'il ne va pas falloir qu'ils remplissent leurs piscines, je ne suis pas pour remplir les piscines, ou alors qu'il va falloir qu'ils arrosent plus leur jardin ou leurs fleurs, ou je sais pas. Là, la question va se poser.
Qu'ils lavent plus la voiture.
Voilà, qu'ils lavent plus leur bagnole. Donc, la question va se poser. Et là, le débat va pouvoir s'ouvrir. Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est vrai que les médias ont couvert pendant une semaine Sainte-Soline, puis on en parle encore aujourd'hui. Mais le débat... va se faire par la force.
Ah mais ils en ont parlé, ils ont parlé des violences, ils n'ont pas parlé.
Oui, oui.
Sur le fond,
il y a peu de médias qui
en parlent.
Bien sûr.
Mais peut-être une hypothèse, c'est que finalement, si l'État n'en parle pas de ce manque d'eau potentiel, c'est que probablement ils ne veulent pas affoler les populations. Hein. C'est ce qu'avait dit une fois à l'occasion d'une élection municipale le maire de Rethel, quand on avait parlé du taffetas, ça remonte un peu maintenant.
Ah,
hein.
Oui.
Le taffetas, quand tu lui avais demandé, le taffetas, vous n'avez pas informé tout ça, vous savez ce que c'est. Il avait répondu, il ne faut pas affoler les populations. Donc là, aujourd'hui, les gouvernements, les pouvoirs publics préfèrent affoler les populations avec les manifestations violentes. Alors bien sûr, la violence est toujours du côté majoritairement du côté des manifestants, même si on parle des violences policières. Il vaut mieux faire peur avec les violences, puisque s'il y a des violences, moi, État, je suis là avec ma police et ma gendarmerie, donc je peux maîtriser la violence. Par contre, s'il y a une crainte pour tout le monde, pas remplir les piscines, pas arroser le jardin, etc., alors que d'autres auront droit, donc là, ça va faire peur. Ça va vraiment faire peur aux gens, et donc ça, ils le veulent pas, à mon avis. Ça peut être une hypothèse d'explication.
Et puis en plus, c'est une grosse injustice, parce que je vois, par exemple, l'été dernier, il y a des golfs, alors je sais plus, je crois que c'est vers Annecy, je suis plus sûre, hein. Mais en tout cas, ça existait. Ils avaient le droit d'arroser le golf, mais les gens n'avaient pas le droit d'arroser leur potager. Mmh. Donc il y a un moment, c'est quand même.
C'est pour ça que je te dis, ça sortira au bout d'un moment. C'est-à-dire que les gens, ils savent ce que c'est quand même 70, leur argent, à quoi elle sert. Donc quand on dit 70% d'argent public pour en perdre entre 20 et 60% en évaporation. C'est leur sou, tout ça.
Oui, puis l'eau qui va stagner, elle va devenir impropre
c'est
aussi.
C'est ça. Il y a plusieurs facteurs pour vraiment être contre ces méga-bassines. Oui. Mais comme tu dis, c'est vrai. Les gens, je ne sais pas comment ils regardent ça. Je ne sais pas s'ils ont déjà réfléchi comment ça va se passer, mais je pense qu'avec l'été qui s'avance, on va subir une sécheresse de profondeur qu'on n'a jamais subie, parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau qui tombe en ce moment, c'est fini. Depuis un mois, c'est le bourgeonnement des arbres qui absorbe. Mmh. Elle ne va plus dans les nappes, c'est fini. Et la sécheresse hivernale a fait très, très, très mal. Mmh. Et on va manquer d'eau dans certains endroits de Champagne-Ardenne. Ça sera à sec.
Et justement, est-ce qu'ils ne vont pas profiter cet été, en Champagne-Ardenne, pour dire, voilà, on manque d'eau, d'où l'intérêt de faire des méga-bassines, pour avoir de l'eau
C'est ce que la FNSEA réclame. Les producteurs d'oignons et de pommes de terre réclament ça. Cet été, il y a eu une réunion d'urgence en préfecture des Ardennes. Donc, les agriculteurs ont dit nous, on veut des méga-bassines. Parce que là, on est des irrigants, on n'a plus de quota d'irrigation, on n'a plus le droit d'irriguer. Donc, avec les méga-bassines, on pourrait irriguer quand notre quota sera atteint.
Ouais. Et tu parles de la FNSEA, et on ne l'a pas évoqué depuis le début, mais c'est vrai que dans ce conflit pro-bassine et contre et anti-bassine, c'est la FNSEA contre la Confédération paysanne, quoi, mm-hmm. aussi. Mm-hmm.
Avec des pratiques
avec
quand même.
Avec des modèles d'agriculture qui sont aux antipodes.
Oui, oui, oui. Mm. Et puis quand même, la FNSEA des Deux-Sèvres s'est comportée vraiment comme des gens très violents. Hein. Sur les opposants bassines depuis ces dernières années.
J'ai entendu une interview hier de... C'est comment son prénom, Monsieur Biteau ?
Thierry
Biteau. Thierry Biteau, il y a des grosses pressions avec... jusqu'à des violences physiques.
C'est pour ça qu'il y a 158 élus qu'on fait un papier dans je ne sais plus quel canard, là, donc en demandant à l'État de faire un moratoire sur les méga-bassines et faire vraiment des assises de l'eau pour que l'eau soit partagée par tous.
Oui.
Mais c'est intéressant, juste une petite chose de M. Thierry Vé, donc il est président de la FDSEA en Champagne-Ardenne, mm-hmm. je crois, ou dans les Ardennes peut-être.
Les Ardennes,
ouais. Oui. Donc a écrit, donc on a été sollicité par l'Ardennais pour faire un petit article au niveau du collectif, et M. Thierry Vé a écrit dans l'article « La solution d'un retour à la paysannerie est juste ». Nous sommes allés trop loin. Donc lui-même, Thierry Huvé, donc il dit lui-même que l'agriculture est allée trop loin. Quoi. Ouais. Mais il est pris dans son job. Hein. Donc finalement, son job, c'est de servir les intérêts de des particuliers, en gros, hein, de servir les intérêts des capitalistes, de l'agroalimentaire, mais pas de la collectivité. Hein. Là, l'intérêt qu'il peut y avoir pour les bassines, consistant à dire, il va pas y avoir d'eau, donc il faut mettre des bassines quelque part. Sauf que c'est un argument qui est irrecevable tout de suite, puisque cet argument-là, ça va être uniquement pour quelques-uns, ça ne va pas être pour la collectivité. Donc ça, c'est... À mon avis, ils ne vont pas se risquer à un argument comme celui-là, mais bon, s'ils se risquent, ils tomberont, sur un os. Mais bon, voilà, il y aura des argumentaires contre, quoi.
Enfin, c'est tout à fait la même chose que pour la méthanisation. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus agriculteurs. Ça devient maintenant des producteurs de gaz. Alors là, ça va être... Ils vont capter l'eau et ils revendront tout cela à des prix qui vont les arranger. Moi, je suis plutôt méthanisation, mais les gros agriculteurs du nord de Reims, me disaient que c'était pour arrondir leur fin de mois qu'ils entraient dans la méthanisation. Et la méthanisation, c'est comme les bassines, c'est avec de l'argent public.
Non, mais surtout énormément d'argent.
Et ça va, ça risque fort aussi de polluer les rivières.
Oui, et on en revient au même problème, c'est que tu as les petits qui en ce moment de méthaniseurs qui se font racheter par des grosses structures comme Total ou Engie ou autres, et de la même façon qu'on va avoir des grosses superstructures de fermes, enfin voilà, tout va appartenir à des grands groupes, autant pour l'eau que la méthanisation. Ouais. Donc
parce que la méthanisation, c'est pas quelque chose qui est favorable à la paysannerie. La méthanisation, la logique est criminelle. Quand on brûle des céréales dans un méthaniseur ou pour mettre dans le ventre des 4x4, on est des criminels. Ouais. Oui. Ou le mettre dans le ventre des enfants. Mmh. Donc si on va à cette agriculture-là, c'est l'agriculture de la faillite d'un système. Et si on ne s'oppose pas à ça, la méthanisation, c'est vraiment les gens qui ont signé en bas de la feuille, que ce soit les environnementalistes ou les associations de protection de la nature, sont des coupables. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Maintenant, si c'est racheté par Total pour faire du fric, la terre doit servir à nourrir les hommes, pas à nourrir les méthaniseurs ni les 4x4. C'est tout.
Oui, enfin, ça n'empêche que dans le nord de Reims, c'est des agriculteurs qui sont associés. Enfin, surtout, je pense aux méthaniseurs de Bétheny. C'est un groupement d'agriculteurs chapeautés par la FNSEA, avec la ferme 112. Oui. Hein, et c'est des agriculteurs.
Oui. Ben, des individus. À la ferme de la Gentillerie, pareil, hein, le méthaniseur qui s'est installé il y a un an. Je suis repassé un soir au mois de juin. Ils ont fauché 400 hectares d'épeautres pour mettre dans le méthaniseur. Et ça, c'est criminel.
Non, mais bien sûr, on sait très bien qu'ils vont faire des cultures dédiées pour le méthaniseur. Hein.
Donc là-dessus, l'agriculture paysanne n'a aucune chance si on veut remettre des paysans, parce que la méthanisation, le prix des terres va augmenter pour faire du maïs, pour mettre dans les méthaniseurs, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Donc le maïs est plus important que les déchets verts pour mettre dans les méthaniseurs, donc il produit plus de gaz. Donc eux, ils veulent faire du maïs, parce qu'un méthaniseur, c'est une grosse vache hein, qui absorbe. Après, on va dire, oui, bon, il va avoir une partie des déchets des collectivités, on va faire un peu d'écologie, les déchets verts, mais ça, c'est infime. Parce que pour le faire marcher sur toute une longue... Parce qu'il ne peut pas marcher pendant 3 mois, parce que ce n'est pas rentable.
Et pour le maïs, pour les méthaniseurs, il faudra de l'eau.
Ouais, non, voilà.
Donc,
non,
mais on revient aux bassines.
Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Et aux antibassines, et donc aux actions que mènent les antibassines. Certains d'entre vous étaient à Sainte-Soline, j'ai cru comprendre. Vous pouvez nous en parler plus... Un peu plus précisément.
Alors oui, il y a eu un rassemblement donc pour manifester contre la méga bassine à Sainte-Soline le 25 et le 26 mars. Ce qui est vraiment marquant sur cette manifestation, c'est qu'il y a quand même à peu près entre 25 000 et 30 000 personnes qui se sont rassemblées pour dire non à ce modèle d'agriculture, non aux méga bassines, alors que Darmanin dans la semaine qui avait précédé cette manifestation, avait promis des violences déjà. Il avait dit déjà que ce serait violent. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas eu peur de mettre en jeu leur santé physique pour se battre contre ce modèle-là. Donc on voit qu'on touche quelque chose qui est vraiment un bien commun que les gens ne veulent pas laisser s'accaparer par les industriels et par la finance, quoi. C'est vraiment, on va se battre jusqu'au bout pour défendre ce bien commun, quelles que soient les conséquences sur nous.
D'autant que si on laisse faire ces projets, ben voilà quoi, si on lâche chaque projet et qu'il se fait tranquillement, c'est fini quoi. Donc là, il faut vraiment, c'est le début d'une prise d'ampleur des processus de mettre des méga bassines partout. Et c'est là qu'il faut les arrêter, parce que si on ne les arrête pas, on va en avoir après...
Entre 800 et 1000.
Mais ce qu'on peut voir, peut-être... Pardon. Non, simplement, je voulais ajouter... oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc tu parles de 1000 mégabassines en projet, ce qui ne m'étonne pas, parce que j'ai omis d'en parler précédemment. J'ai lu que, en plus des 16 en projet là, dans les Deux-Sèvres, dans tout le Poitou-Charentes, il y en a... Il y en a 93. Ouais, voilà. 93. Hein. 93 méga-réserves de substitution. Non, pardon, 93 méga-réserves de substitution en projet.
En projet.
En plus des 16 spécifiques oui. aux Deux-Sèvres. Quoi. Donc, 1000 à l'échelle nationale, oui, ça ne m'étonne pas. Quoi. Tu voulais dire ?
Oui. Oui, quand on regarde bien ce qui se dessine un petit peu concernant l'eau et ce qui se dessine un petit peu concernant l'agriculture, on voit que ce sont les financiers qui interviennent au bout de la chaîne qui sont là. Ça signifie que, si on regarde bien, ça signifie que les financiers peuvent avoir la main sur l'eau. Et ça signifie que les financiers peuvent avoir la main sur l'agriculture. Ça veut dire que, je ne sais pas dans combien de temps, aucune idée, mais ça veut dire que pour deux besoins aussi essentiels que ça, pour vivre, l'eau et manger, ce serait aux mains des financiers. Ça veut dire que on serait complètement à la merci des tarifs qui pourraient être pratiqués. Ils vont inventer des marchés, enfin, je ne sais pas, mais ça c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux.
Ça va être comme l'énergie, en fait. L'énergie, on ne devrait pas pouvoir spéculer sur le prix de l'énergie.
Ça devrait être un bien public aussi.
Tout à fait.
Bien sûr.
Et moi, quand j'étais là à la manifestation, quand on est allé là avec des gens des Ardennes et de la Marne, c'était sympathique. Hein, cet endroit-là est très joli. Moi, le lendemain, je suis allé à la mobilisation. Et à un moment, j'étais à peu près à 300 mètres de la bassine. Du côté...
Tu parles bien de Sainte-Soline.
Oui, du côté de l'Est, ouais. Loin, parce que j'avais mal au dos. Donc, je regardais et je me suis dit, 3500 gendarmes pour défendre un trou avec des cailloux.
Ouais.
La journée, je ne sais pas combien elle s'est chiffrée, pour défendre une méga-bassine, c'est que derrière, il y a un loup.
Clairement.
Il y a un loup de la puissance financière et des multinationales de la viande et du lait. À tout prix, ils ont décidé, coûte que coûte, quasi de tuer des gens pour défendre un tas de cailloux.
Ouais,
un trou avec des cailloux.
Tu sais, nous, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On se dit, si on laisse celle-là passer, c'est la porte ouverte. Et eux, ils savent que si nous, on arrive à bloquer ce truc-là, mais c'est leur système qui s'effondre.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que c'est la guerre, en fait. C'est parce que, à la fois, nous, on se dit, si celle-là, ils la font tranquille, sans qu'on intervienne, et en les regardant faire benoîtement, c'est fini, ils vont en mettre partout. Et eux, ils sont aussi dans la même... Ils le savent, que si on arrive à stopper ce projet-là... médiatiquement, ça va faire du bruit. Et puis les gens, ils vont plus laisser faire la bassine qui est prévue à côté de chez eux.
Sainte-Soline, c'est notre Notre-Dame-des-Landes. Hein. Si on gagne là-bas, tout à l'heure, on parlait des financiers qui rachètent les terres. Actuellement, il y a 14% de terres qui appartiennent aux financiers. Donc, autour de Sainte-Soline, il y a un agriculteur qui a 2500 hectares. Donc, lui... Il veut de l'eau, il veut faire du maïs pour nourrir des animaux, pour l'exportation, pour faire de la malbouffe. Ils n'en ont rien à faire. Mais 2500 hectares, tu t'imagines les petites fermes qu'il pourra avoir sur 2500 hectares ? Donc il faut gagner à Sainte-Soline pour gagner ici et après aller vers un grand débat sur l'agriculture et sur l'eau pour demain.
Mais je repense que le fait qu'il y ait autant de policiers, c'était aussi pour... gagner dans la communication qu'ils ont voulu que ça pète ce week-end pour éviter d'en parler, pour éviter qu'il y ait un débat. Et donc tu empêches les gens de discuter, de s'intéresser au fond du problème. Tu ne vas parler que de... c'est ce qu'on a fait. On a parlé que de la violence.
Mais franchement, c'est dommage que tous les manifestants ne soient pas des violents parce qu'à 25 000, leurs 3 000 sont en force de l'ordre. Bon, il y aurait eu des morts des deux côtés, mais on les anéantissait, quoi.
Mais le problème, c'est ça qui va arriver. Enfin, moi, je le prévois depuis la première manifestation de Sainte-Soline. C'était déjà très, très violent. Là, ils ont eu une autre technique. Ils ne sont pas venus sur nous. Parce que la dernière fois, ils se sont dissipés partout le bocage. Donc là, ils ont perdu la main. C'est là qu'on a envahi la bassine. Mais là, ils avaient une autre technique. Ils ont investi dans des quads.
Le fort assiégé.
Oui, c'est ça. Le fort assiégé. Voilà.
Alors déjà, quand avec on voit les...
Voilà, c'est ça. Mais ils ont mis... Voilà, c'était ça. Et voilà, il y avait les... On n'avait pas les échelles pour passer au-dessus. Mais Voilà, c'est-à-dire que quand ils font ça, c'est qu'ils sont déterminés. Mmh. La violence pouvait qu'être...
Alors, vous étiez, moi, j'aimerais savoir si vous pouvez me répondre, comment ça a commencé? Donc, il y a les manifestants qui ont convergé provenant de différents points, qui ont, est-ce que ça a démarré comme ça, été d'emblée accueillis par une salve de oui. grenades lacrymogènes. Ouais.
Les premiers manifestants sont arrivés du côté est, donc qui s'appelaient les Bleus. Et moi, j'étais resté au rond-point. Les autres copains sont allés rejoindre la manifestation. Et je ne voulais pas trop marcher, donc j'ai coupé au cours. Et tout de suite, il y avait les braves des champs qui étaient là, sur leur quad. Et sans sommation, ils ont canardé. Quoi.
Oui, c'est ce qu'ont écrit dans un article du Monde que j'ai lu il y a quelques jours.
Et ça a été... Moi, j'étais en premier lieu. Et, donc, ouais. Et après, ils nous ont foncé dessus avec les trucs. Et c'est là que j'ai eu vraiment très peur.
Parce que quand on voit les images à la télé qui tournent en boucle, BFM TV ou ailleurs, ce qu'on voit, c'est des fourgons de gendarmerie qui crament et des manifestants qui envoient des projectiles. Quoi. Mais on ne sait pas comment ça démarre. Quoi. Bien sûr.
En fait, le premier cortège de manifestants, quand il est arrivé à proximité des forces de l'ordre, ont reçu tout de suite une salve de grenades, en fait. Ça a commencé... ils étaient même pas... Enfin, oui, ils étaient à plusieurs centaines de mètres encore.
Donc, il n'y a pas eu de sommation
hein. Non. Ah bah non. Dans ce cas, il n'y a jamais de sommation.
Non, il n'y a pas eu de sommation. Et c'est vrai qu'ils leur ont donné un outil, un joujou avec ces quads, mais qui sont très, très impressionnants. Hein, parce que les gars qui sont dessus, et malheureusement, c'est le Monde qui a dit, ben non, ils tiraient sur les quads comme on était des lapins, quoi. Darmanin a dit non. Puis une heure après, il a dit oui. Donc il en a mis deux à pied. Mm. Bon, parce qu'il tirait à vue avec les LBD hein, sur les gens. Hein.
Et bon, la nature était quand même avec les manifestants parce que les quads, je crois qu'ils n'ont pas trop dans les champs. C'était comme il avait beaucoup, beaucoup plus. Je crois qu'ils ne sont pas restés longtemps, ils ont fait juste un passage.
Ouais, moi, je les ai vus passer dans l'eau et ça passe bien.
Ouais,
ça passe.
Ouais, les quads, c'est...
Oui.
Non, mais ils sont arrivés au début. Ils sont arrivés au début. Donc, au début, il n'y avait pas de manifestants encore. Il y avait une marge entre eux.
Ils ont dû s'entraîner.
Comme dit Julie, entre les forces de l'ordre et les manifestants, ils étaient là. Puis, une fois que les manifestants se sont approchés des fameux fourgons, là, donc après, il n'y avait plus de place pour passer. Sinon, il fallait repasser derrière, etc. Donc, mais bon. Mais les forces de l'ordre, donc, effectivement, on voyait des grenades tout de suite. Et même durant la manifestation, ils s'occupaient également, les forces de l'ordre, d'envoyer des grenades lacrymogènes, voire même d'autres explosives, jusqu'à 200 mètres, jusqu'à plus loin, dans les gens qui étaient derrière, qui étaient là pour soutenir un petit peu aussi. Quoi. Donc la violence, hein, c'était un commissaire de police qui avait dit ça durant les Gilets jaunes, il avait dit la violence dans les manifestations, c'est nous qui la déterminons. C'est nous qui la déterminons, autrement dit, si nous voulons que ce soit violent, donc à commencer. Donc bon, alors après, il y a des groupes qui viennent et puis qui veulent en découdre aussi, mais de toute façon, c'est eux qui déterminent le niveau de violence. Et là, il a été déterminé assez vite, quoi, quand même. Hein. J'entendais ce matin aussi qu'il y avait même des relais, des communications qui étaient faites directement avec la place Beauvau, donc autrement dit avec Darmanin, quoi, avec le ministère de l'Intérieur. C'était pas seulement le préfet, c'était aussi Darmanin. Quoi.
Mais de toute façon, s'il n'avait pas voulu de violence... Ils auraient laissé, quoi, il n'y aurait pas eu autant de forces de l'ordre, ils auraient laissé les manifestants. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé dans la bassine et puis on aurait dansé pour dire on y est, puis après on serait rentré chez nous le soir, quoi, je veux dire.
Tout à fait, tout à fait. On est bien d'accord. La bâche aura probablement été crevée.
Non, il n'y a pas de bâche.
Il n'y avait pas de bâche là.
Il n'y a rien.
En plus.
Donc c'est pour ça que je te dis, ils défendaient un tas de cailloux.
C'est vrai, pardon.
Ils défendaient un tas de
cailloux. Le système de pompage?
Pardon?
Le système de pompage n'était pas installé?
Ah non, il n'y a rien installé. Ils ont fait le trou.
Et donc,
paraît-il, cet agriculteur qui nous a prêté le terrain, là, je suis remonté avec lui, l'accompagner à sa voiture. Donc, il m'expliquait. Un peu plus loin de la bassine, vous avez vu, il y a un silo. Il y a un silo à grains. Elle est sur le même long, elle est à quoi 500 mètres de la bassine. Elle est au même niveau. Et quand ils ont fait ce silo à grains, ils n'ont pas fait d'études de profondeur de nappe phréatique. Sans études. Et pendant des années, à part les deux années qui sont passées là, qui étaient des années de sécheresse, ce silo, tous les hivers, les fonds du silo sont inondés. Parce qu'il y a une nappe vraiment pas trop profonde.
J'ai ça dans mon garage des fois quand.
Et donc la méga bassine, ils se seraient aperçus parce qu'ils n'ont pas fait d'études de profondeur sur cette méga bassine, et seraient aperçus quand il y a eu 250 mm le mois dernier parce qu'ils ont eu beaucoup d'eau.
Ah oui, là, oui, c'était des trompes.
Ils sont aperçus qu'il y avait cette nappe qui soulèverait la bâche et que la méga bassine ne pourrait pas se faire. C'est ce que cet agriculteur m'a dit. Et si c'est le cas, c'est une catastrophe.
Comme quoi, la nature est vraiment de notre côté. Hein, parce que là, le vent ramenait les lacrymos et les fumées vers les forces de l'ordre.
Il est dans ce silo, il va livrer son blé et son maïs. Et il me dit, ils ont installé depuis des années des immenses pompes pour pomper les sous-sols de cette coopérative, qui ne sont pas bas, hein, ils sont à 5-6 mètres de profond. Et l'hiver, quand il y a des pluviométries importantes, donc vu que c'est de l'argile, l'eau ne se va pas, et donc ça inonde énormément. Et donc si c'est le cas, parce que là, ils ont creusé profondément pour avoir de la terre, pour faire les digues. Donc ils ont creusé à l'intérieur, ils ont poussé. Donc ça représente à peu près 16 mètres de profond, entre 10 et 16 mètres de profond.
La bassine projetée à Sainte-Soline.
Oui. Donc c'est.
Bah, elle n'est pas projetée, elle est creusée. C'est juste qu'elle n'est pas finalisée.
Quand
quoi.
Je dis projetée, je dis le projet. Quoi.
Ouais. Donc c'est à peu près 16 hectares. C'est à peu près 16 terrains de football. Donc ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Ils amènent des bulldozers, ils creusent et ils font des digues. Le fond est très argileux. D'abord, il y avait un drone qui a photographié la bassine et il y avait pas mal d'eau dans la bassine. Parce qu'elle ne peut pas partir, c'est de l'argile en dessous. Alors cette nappe-là, si elle monte, donc ça mettrait la bassine, ça soulèverait la bâche. Quoi.
Les champs seront irrigués.
Ouais.
Pardon ?
Fermier ouaté la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt, personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie dit tout enflammé. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tricks. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible.
essentiel. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard pipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, perdant la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Ah non, non, il y a que des cailloux. C'est pour ça que je vous dis, en regardant 3500 gendarmes, je me dis, là il y a quand même quelque chose, il y a un loup quelque part quoi. S'ils veulent défendre ça, je pense qu'ils veulent pas perdre là-bas.
Ouais, c'est ça. Ils savent que s'ils perdent là, comme nous, on sait que si on gagne là, on gagne ailleurs.
Eux, ils sont exactement
dans le même...
Parce que derrière, il n'y a pas que le ministre de l'Agriculture, hein, il y a tous les financiers de l'agro-industrie, hein, du business comme Vivicia, comme tous les multinationales de la viande et du lait qui est derrière, parce que eux, c'est leur business.
Justement, pour la construction de la bassine, bon, prenons Sainte-Soline. Tu disais tout à l'heure 70% d'argent public. Est-ce que vous savez qui met les 30% restants ?
La coopérative.
La coopérative
qu'ils ont créée. Ouais.
Agriculteurs. Et ça regroupe combien d'agriculteurs ?
6%.
6% des agriculteurs du coin ?
Oui, absolument.
C'est
6%. C'est 6% des agriculteurs qui vont avoir accès à la bassine.
Ceux qui ont des...
Ceux qui ont plus d'argent.
Et avec ça, c'est le budget est bouclé.
Oui, et après, ils revendent l'eau, je ne sais plus combien. Ils l'achètent 20 centimes, maintenant 30 centimes. Et ils la revendent, je ne sais plus combien, le prix. Je crois que c'est multiplié par 10.
Ils la revendent à qui ?
Je trouve que c'est vachement...
Ils se la revendent à eux.
Ah oui,
t'as des droits, t'as des quotas. T'as des quotas d'eau. Parce que tu ne peux pas prendre l'eau dans la bassine comme ça.
Oui.
Attends, ce qui veut dire que... L'investissement pour construire une bassine, une méga bassine.
Sainte-Soline, c'est 60 millions d'euros, Sainte-Soline. Non, uniquement Sainte-Soline, 60 millions
la
d'euros.
La revente de l'eau.
60 millions d'euros, 70% d'argent public, ça fait 42 millions d'euros. Le reste, c'est la cope de l'eau.
Oui, mais ça veut dire que pour l'agriculteur, non seulement il va devoir payer
une
partie de la...
Des frais de
la construction de la bassine.
Oui.
Plus ensuite, son eau qu'il prélèvera.
Bien sûr.
Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'il faut quand même que, sa production soit extrêmement rentable pour gagner de l'argent quand même.
La production, elle est rentable parce que c'est des subventions de la PAC.
C'est toujours le même problème.
Ben oui, il y a la PAC qui finance. Si tu fais du blé ou du maïs, bon voilà, la PAC, elle arrose suivant l'hectare. C'est la prime à l'hectare. Donc la PAC, c'est un autre problème. Quand on aura commencé à faire un autre projet que la PAC, on aura irrigué pas mal de problèmes au niveau de l'agriculture. Parce que la PAC, actuellement, c'est la prime au plus fort. Oui. Et ces gens-là touchent des primes PAC énormes, donc ils peuvent investir. Regardez, celui qu'on vient de condamner a rebouché sa bassine en région parisienne. Donc, on a regardé la vidéo hier. Le gars, il n'avait pas d'autorisation, mais il a eu de l'argent public pour construire sa bassine. Et aujourd'hui, il y a les bulldozers qui rebouchent la bassine, qui retirent les tuyaux et la bâche.
J'ai l'info là sous les yeux. Donc, la bassine prévue à Sainte-Soline, c'est pour 12 exploitants agricoles.
Ouais. C'est ça.
C'est ça.
Et donc,
Alors, en plus, c'est la COP de l'eau qui finance les 30% qui restent. La COP de l'eau, donc autrement dit, qui regroupe, je ne sais plus, 450 agriculteurs environ par là. Ouais. Hein, environ. Mais donc, la COP de l'eau inverse ça pour 12. Pour 12. Elle verse pour 12.
Mais actuellement, les irrigants, que ce soit ici ou là-bas, vous savez combien ils payent l'eau ? 20-30 fois moins cher que vous. Qui va vérifier les compteurs ? La police de l'eau, elle est passée cet été. Moi, je les ai vus plusieurs fois. Quand je les voyais arroser en plein cagnard, bon, moi, je suis arrêté. J'ai dit, mais faut arrêter. Il m'a dit, bon, on s'est embrouillé. Il m'a dit, ben, c'est pour te nourrir. J'ai dit, non, tu ne vas pas me nourrir. Parce que là, tu gaspilles de l'eau par un soleil de plomb pour arroser des oignons. Ils en ont jeté 30% parce qu'ils ont trop arrosé, ils étaient pourris. Donc ça, vous pouvez voir, les oignons, ils y sont encore. Hein. Ils ont dit, ah bah ok. Donc les oignons sont allés dans le méthaniseur après.
Ah bah oui.
Ça, c'est le système agricole qui est rongé par le capitalisme financier.
Ça s'appelle la finance autoritaire. Donc, autre chose encore. Mais on regarde bien. Aux États-Unis, en Californie, il existe un marché de l'eau. L'unité de mesure aux États-Unis, c'est 1,2 million de mètres cubes d'eau. C'est une unité de mesure pour acheter, pour revendre. Hein. Cette unité de mesure, elle valait il y a quelque temps, début 2020, elle valait 500 euros, 500 dollars environ. Aujourd'hui, elle en vaut 750. Si on prend la valeur de ce million de mètres cubes à 750 euros, qu'on le transporte à Sainte-Soline, on se rend compte que finalement, si l'État investit 70%, c'est pour un chiffre d'affaires en quelque sorte de quelques 300 000, 400 000 euros, pas plus. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Tout à chacun, si on met de l'argent quelque part, c'est pas pour le perdre. Donc autrement dit, il est quand même assez bizarre qu'un système capitaliste décide d'investir dans quelque chose pour ne rien gagner. Donc effectivement, il y a un loup. Et ce loup-là rejoint un petit peu ce que disait quelqu'un ce week-end. Là. Disait que finalement, Sainte-Soline, là, la dernière manifestation, c'est un galop d'essai. C'est un galop d'essai. Autrement dit, l'État a vu en octobre dernier que ça pouvait chauffer beaucoup pour les bassines et qu'en plus de ça, il pouvait être décontenancé, il pouvait être dépassé. Donc là, il a mis les moyens et il a mis les moyens non pas parce que finalement, il est en opposition, lui, il veut faire ça, il voit qu'il y a des anti-bassines. Non, c'est parce que derrière, il y a le libéralisme, il y a le système qui est là, la finance autoritaire, et puis qui lui dit, mon gars, si tu fais pas quelque chose pour nous, parce que finalement, l'État, c'est ça. Le capitalisme aujourd'hui, c'est ça. C'est je fais quelque chose pour toi, pour le libéralisme, je fais quelque chose pour les grands financiers, je fais quelque chose pour l'industrie, auquel cas tu me renvoies l'ascenseur en favorisant dans les médias mon électorat ou des choses comme ça. Ça marche comme ça finalement. Le capitalisme finalement c'est pas autre chose que le valet des grandes multinationales. Donc là, il avait un galop d'essai. S'il perdait là, il perdait vraiment beaucoup là. Il perdait vraiment beaucoup. Et bon, c'est pour ça que finalement, il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Et qu'on en a pris plein la figure.
Oui,
le seul intérêt, c'est de sauver le système, de toute façon. C'est juste ça, de toute façon.
Oui, bien sûr, il y a déjà ça. Et il y a aussi, avec Sylvain Leder, vous avez vu quand vous êtes venu à la conférence, là, chez Josette, là, journaliste au monde diplomatique, lui, il a regardé un petit peu sur l'histoire du maïs. On regarde, le maïs, c'est le produit qui est le plus vendu dans le monde. D'accord ? C'est ça ? C'est le produit le plus vendu dans le monde. Donc ça veut dire que, avec les périodes de sécheresse qui s'annoncent de plus en plus importantes, le maïs va trinquer. Donc ça veut dire que si le maïs trinque parce qu'il y a de la sécheresse, pour ne pas qu'il trinque, il faut de l'eau. Donc ça veut dire que les bassines, en quelque sorte, vont presque devenir, selon leur logique à eux, vont presque devenir incontournables. Donc il faut des bassines pour nourrir, pour faire pousser du maïs, pour continuer à vendre comme ça, comme tu dis, industrie agroalimentaire. Donc finalement, c'est une chaîne comme ça, et ça se démontre, enfin ça se joue comme ça en ce moment, ça se joue aujourd'hui, quoi, avec voilà, Sainte-Soline. Effectivement, Sainte-Soline, c'est, me semble-t-il, un vrai galop d'essai et une vraie épreuve pour le gouvernement et pour nous aussi, quoi.
Oui, mais alors je pense que quand même le vent tourne un peu aussi, même dans, parce que les médias, Le Monde a quand même pas mal documenté les affrontements à Sainte-Soline, et c'est eux qui ont sorti l'enregistrement où on entend que le gars du SAMU dit on n'a pas le droit d'envoyer des secours, la police nous a dit qu'on ne devait pas. La situation est telle qu'on est assujetti aux desiderata, aux ordres de la police, ils nous ont interdit d'intervenir. Il y avait quand même 6 groupes de la Ligue des droits de l'homme,
des observateurs
qui ont témoigné de ça aussi. D'ailleurs, on entend une des femmes de la Ligue des droits de l'homme dans cette conversation qui demande vraiment confirmation à la personne, à l'interlocuteur du SAMU. Le gars dit, ça fait plusieurs fois qu'on nous appelle, mais on n'a pas le droit, on ne peut pas. Je crois que France Info aussi est allée et aller un peu dans le sens des manifestants en relatant les faits tels qu'ils étaient et sans en rajouter contre les manifestants. Donc ça bouge aussi quand même de ce côté-là. Plus univoque anti-manifestants.
Ça reste toujours manifestants.
Si tu veux, le fait qu'eux relaient l'enregistrement où on entend clairement le gars du SAMU dire on n'a pas eu le droit, c'est déjà une bonne chose.
Oui, mais t'as vu ce qu'on leur a répondu. En fait, ils ont dit oui, vu que t'as des manifestants qui ont cramé un fourgon de police, il n'y avait pas la sécurité pour passer. Et donc, ils ont pu justifier le refus de faire avancer les secours parce que c'était trop dangereux pour eux, en fait.
Oui, mais la Ligue des droits de l'homme avait averti que depuis une demi-heure, c'était calme. Et puis après, tu es sur place...
Les blessés n'étaient pas allongés à côté des fourgons, quoi.
Quand tu es sur place... parce qu'apparemment, ils auraient parlé aussi, dire qu'ils avaient peur que l'ambulance se fasse caillasser par les manifestants. Quand tout le monde retournait au campement... T'entends des applaudissements qui viennent derrière toi, tu te retournes et en fait les street medics se font applaudir tout du long du cortège. Quand ils remontent le cortège, après la manif, ils se font applaudir d'un bout à l'autre du cortège. Les gens qui applaudissent les street medics, ils balancent pas des pierres sur les ambulances, quoi.
Mais pour revenir sur cette histoire de médias qui relate une histoire en... Quoi qu'il arrive, tous les médias là dont on parle, ce qu'ils relatent, c'est les violences, qu'elles viennent de la police ou des manifestants, et ils ne traitent pas le problème de fond. Même s'ils n'accablent pas les manifestants comme l'ont fait BFM ou d'autres médias, ils restent sur « Ah bah il y a eu des violences à Sainte-Soline », mais ils ne parlent pas du tout du problème de fond.
Ils ne parlent pas du fond, c'est vrai.
Alors, il y a une chose qui est intéressante avec les médias, me semble-t-il, c'est que finalement, je suis d'accord avec toi, tous les médias de droite, de gauche, enfin, je ne sais pas si ça existe encore les médias de gauche, mais tous les médias en parlent. Ils vont parler de la même façon, et Julien a raison aussi, en disant qu'ils parlent beaucoup de la violence, etc. Et finalement, quand on regarde bien, les médias, à différents moments dans la semaine, le même média ne va pas dire la même chose. Ça veut dire qu'un autre média va faire la même chose. L'objectif étant que les médias communiquent de l'information et que cette information, au bout d'un certain temps, ne soit plus compréhensible pour personne. Ouais. Parce que finalement, leur objectif à eux, il est que personne ne s'intéresse à ça et que personne ne comprenne. Et quand on regarde bien, il y a quelques années, c'était avant le Covid, il y avait la présidente du FMI, Christine Lagarde, qui parlait du libéralisme et qui disait le libéralisme, il va falloir revoir un peu parce que c'est un système très profondément inégalitaire. Il a produit beaucoup, beaucoup d'inégalités. Christine Lagarde, présidente du FMI. Mm-hmm. Deuxième personne le plus important du monde, quand même. Deuxième personnage le plus important du monde. Et finalement, et qu'est-ce qui s'est passé après ? Rien du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Ouais, ça a continué, le libéralisme a continué. Donc là, ça va être la même chose, comme dit Olivier tout à l'heure. Ils vont parler pendant une semaine, peut-être 10 jours. Ils vont mélanger toutes les informations, on ne va plus rien comprendre. Et puis ensuite, ça recommence.
Pensez-vous, je change un peu de sujet, mais pas tout, pas vraiment, quoi. Pensez-vous que, comme le souhaite Darmanin, est-ce que ça fait sens ? Peut-il arriver à interdire les soulèvements de la Terre ?
Alors, déjà, juste pour vous donner matière à réfléchir, non, parce que Darmanin, il est en ce moment devant la commission, juste pour vous dire ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps, ça va vous faire sourire. Gérard Darmanin laisse entendre que les subventions à la Ligue des droits de l'homme pourraient être remises en cause.
Ouais. Ah, oui.
Ouais, c'est.
Il va loin.
Non, mais c'est. Voilà,
mais
voilà,
ça, on
c'est
en là, démocratie, n'est-ce pas?
C'est ça, oui.
Non, c'est fini. Ça fait depuis un petit moment, c'est fini.
Non, mais on a enregistré une autre émission où.
Donc, ça, c'est.
Je suis bien d'accord avec toi.
On pourrait dire que nous sommes dans une démocrature aujourd'hui, pas une démocratie.
Oui, on est aujourd'hui le 5 avril. Et oui, c'était sur le site de France Info, c'est ce qui est marqué. Je ne suis pas allé lire plus, mais rien que le titre, ça m'a.
De toute façon, il y a une loi qui est passée pour que les associations, dont ATTAC et par exemple Greenpeace aussi, qui font de la désobéissance civile, ne puissent plus faire de rescrits fiscaux pour les dons à cause de leurs actions non violentes. Quoi.
Comme l'association qui a eu dans Versailles-Soline, l'association de protection de la nature, qui travaillait sur l'eau avec des spécialistes au niveau de l'hydrologie, des botanistes, tout ça. Donc la subvention a été supprimée parce qu'ils ont participé à la manifestation de Sainte-Soline. Ouais.
Et donc, pour répondre à ta question, Jean-Marie, est-ce que, selon vous, les soulèvements de la Terre risquent quelque chose ?
Est-ce qu'il va y avoir, sur le plan local, un collectif soulèvement de la Terre ?
Il exige déjà... Il existe déjà. Et donc, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'a pas de visage et qui est noyé dans d'autres associations, qui est partenaire avec d'autres associations.
Voilà, c'est ça.
Même qu'il est dissous, je pense qu'il renaîtra encore plus parce qu'on en est à 67 000 personnes qui sont soulèvement de la Terre aujourd'hui. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissoudre quelque chose qui défend la Terre.
Oui, mais alors, je crois que je ne sais plus quelles autres entités ils avaient cité en exemple. Mais en fait, quand ils veulent dissoudre certains mouvements comme ça, hormis la dissolution d'une entité qui n'est pas physique, ils empêchent les personnes qui appartenaient à ce mouvement de se voir, en fait. Là, ça va plus loin, en fait. C'est ça qu'il faut avoir peur, parce que je suis d'accord.
Tu peux dissoudre
une organisation, mais à partir du moment où après, tu surveilles que les personnes qui adhéraient qui appartenaient, ne se retrouvent pas.
Mais ils ont déjà commencé avant Sainte-Soline pour arrêter Julien. Julien était arrêté et mis en garde à vue.
D'accord.
Julien était, à une semaine de la manifestation, Julien était arrêté et mis en garde à vue. Et on lui a mis interdiction de se rendre à Sainte-Soline, même chez lui. Il ne pouvait pas, il n'a pas le droit d'être dans le périmètre de chez lui. Et à Mauzé-sur-Mignon. Donc, à une semaine de la manifestation. Donc, il était arrêté, il a fait 24 heures de garde à vue. Et voilà. Donc, l'intimidation, elle est là.
Mais à Bure, ça existait déjà avec les manifestations de Bure. Des personnes étaient assignées à résidence, ne pouvant pas faire les manifestations qui étaient prévues sur Bure.
Oui, là, de toute façon, ça prend un peu la même tournure. On a l'impression qu'ils veulent faire aussi comme s'il y avait une association de malfaiteurs, ce qu'ils ont fait à Bure. Et en fait, ça a duré pendant des années, il y a eu un procès. Et au final, tu as eu deux personnes condamnées parce qu'ils avaient participé à une manifestation illégale. J'ai l'impression qu'on part exactement dans le même schéma.
C'était très dur pour les gens qui étaient occupés. Ça a duré 3 ans.
Oui. Et puis, communiquer entre eux, pas se voir, avoir des périmètres où ils ne pouvaient pas aller et tout. Oui, non, mais c'est pas léger comme.
Mais ça fonctionne toujours. Un système, un gouvernement, un système politique quel qu'il soit, fonctionne toujours de la même façon quand il a des opposants. Il a que deux choix. Ou bien il les achète, ou bien il les supprime. Alors, il les supprime, il ne va pas les supprimer obligatoirement, les tuer. Hein. Il supprime les subventions, il arrête les gens, il fait de l'intimidation, etc. etc. Donc, mais il n'y en a pas d'autres. Là, en l'occurrence, il semble que Darmanin s'oriente vers la suppression, quoi. Vers l'élimination. Quoi. Il va pas acheter les mouvements de la terre. C'est sûr,
donc, mais après, terre. Je sais qu'ils avaient parlé aussi de dissoudre Nantes révoltée et ils n'ont pas, pas fait. Oui. Donc, après.
Mais. S'il ne peut pas dissoudre les soulèvements de la Terre, c'est parce qu'il me semble avoir compris que c'est pas une organisation.
Non, c'est un regroupement.
Un regroupement collectif. D'organisations et de personnes. Quoi.
Ouais.
Donc, même dissous, ils peuvent très bien renaître le lendemain sous un autre nom. Quoi.
De toute façon, je pense qu'en fait, il veut pas dissoudre, il veut juste qu'une partie de la population ait une image négative de Nantes révoltée, de dessoulèvement de la Terre. Enfin voilà, c'est une façon de tuer un peu des personnes, tuer des idéologies, tuer des personnes. Voilà. Ils ont pas besoin de dissoudre. Enfin, à partir du moment où ils lancent l'idée, il a déjà fait le travail.
Ouais. C'est la communication de la peur.
Et vous parliez du collectif tout à l'heure. Il y a quand même un collectif Bassine Non Merci 0851 qui existe.
Oui, bien sûr.
On peut en parler. On peut en parler aussi peut-être des projets de Bassine qu'on peut avoir dans le coin en bas de chez nous. Si vous voulez, on peut un peu.
Oui, ça, je ne sais pas si on peut en parler. Mais bon, il y a des projets en tous les cas. Et pour l'instant, on attend. Mais je pense que c'est sûr qu'on ne va pas y échapper. Hein. Nous sommes dans une région quand même de production importante au niveau de pommes de terre et d'oignons. Moins de maïs, mais les irrigants réclament tous les jours à la Chambre d'agriculture de l'eau.
Et la luzerne aussi, est-ce que ça s'arrose ou...
Non, la luzerne, ça pousse comme ça. Pas, non, ça ne s'arrose pas. Mais après, c'est sûr qu'il y a une puissance importante qui est dans notre département, enfin le département de la Marne, qui est le pôle agro-ressources de Bazancourt. Ouais. Et là, autour de ça, culmine 10 multinationales. Parce que les betteraviers, ça va quand même de Rethel à Troyes, et c'est une énergie quand même importante. Donc, eux aussi, ils vont demander de l'eau.
Est-ce qu'il y a une culture de substitution au maïs pour les mêmes usages que le maïs ?
La prairie. Oui, il faut lire le livre d'André Pochon, un agriculteur breton. Il y a 20 ans, il a fait un livre en dénonçant la production de maïs parce qu'on a transformé l'alimentation des animaux. On est passé du foin à l'ensilage de maïs, qui est complètement négatif. Et au niveau environnement, c'est catastrophique parce que le maïs a besoin d'énormément d'eau et énormément de produits. On a pollué des vallées avec de la drazine en polluant avec le maïs produit. Donc André Pochon explique bien dans son livre la catastrophe du maïs. On est passé du foin au maïs ensilé. Et qui est vraiment négatif pour les animaux.
Ensilé voulant dire ?
Ensilé, ça veut dire qu'on fauche le maïs vert, on le déshydrate et après on le stocke dans des silos et on le donne l'hiver aux animaux. On appelle ça des tourteaux de maïs, des pulpes de maïs.
C'est pas le grain que l'on donne aux animaux, c'est la tige, quoi, c'est ça ?
L'ensemble.
Et le soja, ça ne peut pas remplacer le maïs ?
Mais le soja, de toute façon, on en donne en plus du maïs, parce que le maïs, c'est pas tellement protéiné. On complémente avec des petits pois et le soja, bien sûr, qui est
protéiné.
Qui vient d'Amérique.
On peut pas demander au porc de manger du sorgho.
Mais c'est ça. Déjà, il faudrait déjà réguler, manger moins de viande.
Oui.
La première chose, c'est ça. Il faut changer complètement le logiciel de l'agriculture. Le premier logiciel qu'il faut changer, c'est la PAC. Parce que la PAC représente 45% du budget de l'Union européenne pour financer l'agro-industrie, pour faire de la cochonnerie. Donc si on change la PAC fait qu'on supprime des agriculteurs. Partout en Europe, à part la Roumanie. La Roumanie, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps. ils ont encore 5 millions de paysans. Une paysannerie vraiment ancrée dans le territoire. Mais en venant vers l'Allemagne, la Transylvanie, que ça s'appelle, là, c'est Monsanto qui a acheté toutes les terres roumaines qui sont très, très, très riches. Ouais. Et donc là, on fait du soja.
Et puis les terres, elles doivent être cultivées encore de façon... quoi. Elles étaient encore cultivées, oui, certainement d'une façon qui ne les avait pas appauvries. Donc,
oui, mais bon, le problème de la Roumanie, c'est que son ministre de l'Agriculture était le bras droit de Monsanto.
Ah oui. Donc ça va changer, quoi.
Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ça facilite les choses. Voilà.
Donc il faut changer la PAC pour changer l'agriculture ici. Et faire un grand Grenelle, si on pourrait dire, de l'agriculture, de l'eau et des paysages.
Donc il faut changer le monde, quoi.
Carrément.
L'agriculture, ça représente énormément, hein, tout le monde. Nourrir les hommes, c'est tout le territoire.
Avant de terminer, je serais d'accord pour qu'on... Ça a été noyé dans ça, juste rappeler pourquoi on considère que les mégacines, c'est pas intéressant.
Parce que c'est pas une réponse au changement climatique. Il faut changer de modèle agricole. Parce que ces bassines, l'eau dans ces bassines, elle est réservée à un petit nombre d'agriculteurs irrigants et pas tous les agriculteurs irrigants. On l'a encore dit tout à l'heure, c'est 12 agriculteurs irrigants qui vont avoir accès à la bassine de Sainte-Soline. Parce que ces bassines et le fait de pomper dans les nappes pour les alimenter, quand bien même elles seraient remplies, ça modifie les sols, ça modifie le milieu naturel, ça modifie la biodiversité, ça l'appauvrit. Parce que ces méga-bassines sont financées par des contribuables, hein, lesquels contribuables, on ne leur demande pas, mais ils ont peut-être d'autres points de vue sur les usages qu'il convient de faire de l'eau et sur le modèle agricole vers lequel il faudrait orienter l'agriculture. On l'a dit aussi, dans ces bassines, l'eau stagne, des bactéries s'y développent, des algues vertes. C'est une eau de mauvaise qualité qui va servir
à devenir impropre, on est d'accord.
Et qui va servir à irriguer une culture principalement qui est faite de maïs, qui est une plante inadaptée au changement climatique et aux sécheresses à répétition qui se profilent. Voilà, en fait, il y a des gens sérieux, des experts, hein, des chercheurs qui aussi en pensent beaucoup de mal.
Non, voilà, mais je pense que ce que tu viens de rappeler, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et ben du coup, on a terminé notre émission. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt.
À bientôt.